Ok, excuse-moi. Je continue. Je suis spécialiste du droit constitutionnel local, mais je traiterai aujourd'hui le changement informel, entre guillemets, de la Constitution. Madame la députée Shiori Yamao était négative à l'anti-révolutionnisme constitutionnel japonais dans son intervention ce matin. Mais je me situe dans la position différente. En fait, il y a 2 ans, le parti démocrate, le parti précédent du parti démocrate constitutionnel dont le membre est Madame Yamao, ce parti m'a invité au séminaire des députés concernant la révision constitutionnelle dans le domaine de la décentralisation. Madame Yamao était là, en fait. Juste après ce séminaire, je me suis présenté à l'audience des spécialistes de la commission de la révision constitutionnelle de la diète japonaise sur la recommandation du Parti démocrate. Restait toujours à l'anti-constitutionnalisme en ce temps-là. Mais pourquoi? L'explication est suivante. Je commence l'explication de distinction entre deux constitutionnalismes. Le constitutionnalisme consiste à contraindre tout pouvoir public par les normes suprêmes afin de garantir la hiérarchie des normes ainsi que les droits fondamentaux des citoyens. Mais cependant, par qui et comment les pouvoirs politiques, notamment celui représentatif de la nation, pourront être obligés à observer la norme suprême, alors que le pouvoir représentatif insiste sur la nécessité de la tordre en raison du changement de la situation politique face au temps. Or, on peut distinguer le constitutionnalisme politique et constitutionnalisme juridique. Le premier veut dire que le pouvoir représentatif de la nation pourra être contraignant de fait par le pouvoir de surveillance, reprenant le terme de professeur Pierre Rosanbaron, souvent par la protestation puissante des électeurs ou de l'opinion publique exercée en raison de l'illégalité de son acte dérogatoire à la norme suprême. Le second signifie que l'organe juridictionnel, le pouvoir judiciaire ou la cour constitutionnelle, compétent du contrôle de constitutionnalité, pourra contraindre le pouvoir représentatif de la nation par une mesure juridictionnelle. Il n'existe que le constitutionnalisme politique au Royaume-Uni, comme vous savez bien, puisque son principe fondamental consiste dans la constitution non écrite et la souveraineté du Parlement. Par contre, les pays de l'Europe continentale, tels que l'Allemagne ou votre pays, ont pu établir l'empire du constitutionnalisme juridique, puisque contrôle le pouvoir politique grâce au contrôle abstrait des normes exercées par la Cour constitutionnelle. Parallèlement au constitutionnalisme politique également. Le système américain du contrôle judiciaire de constitutionnalité, modèle celui japonais, se limite à un certain domaine plus étroit par rapport au système européen à cause de sa procédure propre, par voie d'exception. le pouvoir judiciaire n'exerce le contrôle de constitutionnalité qu'un cas nécessaire et inévitable pour régler un litige concret avec elle. Dans un tel système, on doit compter sur le constitutionnalisme politique considérablement afin de contraindre les pouvoirs politiques paradoxalement de façon normative. En réalité, le fonctionnement du constitutionnalisme est réglé par deux facteurs, internes et externes. Quant au facteur interne, on doit évoquer la mentalité traditionnelle japonaise qui évite la résolution déterminée en précisant la victoire qui gagne tous et la défaite qui gagne rien dans ces disputes politiques. En se basant sur un compromis ambigu, par exemple, vers 1993, le majoritaire de la diète japonaise a essayé d'adopter le sucratan d'arrondissement dans l'élection législative des députés en visant la réalisation de la démocratie majoritaire ou la représentation majoritaire. Mais elle a finalement adopté en 1994 un amalgame de divers sucratans. Le scrutin d'arrondissement pour 3/5 des sièges de la Chambre des députés et le scrutin proportionnel pour le reste des sièges qui a permis le minoritaire politique de suivre après la réforme en se divisant en plusieurs petits partis politiques. En fait, une telle mentalité japonaise permettra les vaincus politiques de résister aux vainqueurs politiques considérablement, dont les activités parlementaires permanentes, et conduira très souvent à un compromis ambigu, mais elle ne se base pas en réalité sur l'esprit du relativisme moral tel que Three aux pays démocratiques occidentaux. Les Japonais poursuivent le compromis considérable plutôt d'avoir préférence par instinct d'éviter la confrontation sévère. Il fera en résulter probablement que les Japonais suivent irrationnellement au pouvoir dictatorial sous l'autorité puissante d'un personnage ambitieux dans une situation politique extraordinaire. C'était le cas de la Seconde Guerre mondiale, la guerre téméraire. S'agissant du facteur externe, on doit évoquer surtout la structure politique japonaise inclinée à l'obéissance excessive à l'exigence des États-Unis. Après sa défaite dans la Seconde Guerre mondiale, les élites japonaises se sont incorporées considérablement dans une structure hégémonique globale des États-Unis dans multiples domaines politiques, administratifs, économiques et culturels. Une telle situation n'a jamais changé après le rétablissement de la souveraineté d'État par le traité de San Francisco en 1951 qui s'accompagnait à la fois de la conclusion du traité de sécurité nippo-américaine qui permettait les armées américaines de stationner de façon permanente au Japon afin de développer la stratégie mondiale des États-Unis. Cela veut dire qu'en réalité, le régime de l'alliance nippo-américaine structurée de façon obéissante du Japon aux États-Unis s'impose sur le régime constitutionnel japonais. Par exemple, en 1959, la Cour suprême japonaise a cassé la décision de l'instance originelle qui avait prononcé la non-conformité du traité de sécurité nippo-américaine à l'article 9 de la Constitution. La Cour suprême a évité le jugement de constitutionnalité en évoquant la théorie de question politique, acte de gouvernement, afin d'admettre sa conformité, effectivement. Mais ce qui est plus grave pour le constitutionnalisme japonais se trouve dans le fait que le président de la Cour suprême de cette époque-là, Kotaro Tanaka, ancien professeur de philosophie du droit à l'Université de Tokyo, a pris souvent un contact secret avec l'ambassadeur américain au Japon avant sa décision. Ce secret scandaleux s'est dévoilé récemment par les documents officiels du gouvernement fédéral américain rendus publics à l'expiration du document confidentiel. Si l'on poursuit la révolution constitutionnelle, quand même, il faut considérer la nature juridique du contrôle de constitutionnalité ainsi que les facteurs internes et externes du constitutionnalisme japonais. S'agissant de la procédure de révision constitutionnelle prescrite dans l'article 96, la constitution japonaise est très difficile à achever car il faut d'abord acquérir deux tiers des voix au moins de tous les membres de chaque chambre et puis atteindre un vote affirmatif d'une majorité de tous les suffrages exprimés dans le référendum. Dans le passé, le premier ministre Shinzo Abe a reproché la difficulté de révision avec zèle pour la raison qu'une telle difficulté empêcherait le peuple souverain japonais d'avoir l'occasion de choisir sa constitution. Mais la procédure assez difficile pour la révision constitutionnelle qui nous oblige beaucoup du temps et la prudence n'est pas le mal pour le constitutionnalisme japonais. Si l'on considère deux facteurs propres au Japon, c'est-à-dire d'une part la mentalité japonaise qui préfère un changement graduel et modéré par un compromis, et d'autre part la stratégie mondiale des États-Unis qui vise la hégémonie militaire mondiale en s'appuyant sur les forces d'autodéfense japonais, si appelé abréviation, les FAD. C'est vrai que même les Japonais doivent réviser la constitution si le changement social l'exige pour une meilleure garantie des droits fondamentaux. Mais la constitution japonaise pourra s'adapter suffisamment à un tel changement par une nouvelle interprétation de la clause constitutionnelle des droits fondamentaux, assez souple et globale. De surcroît, on peut retrouver que les juges de la Cour suprême même sont de plus en plus actifs dans le cas de la violation sérieuse des droits fondamentaux en prononçant l'inconstitutionnalité d'une loi en question. Ainsi, le constitutionnalisme juridique japonais fonctionne dans certains domaines de garantie des droits fondamentaux. Par contre, le constitutionnalisme juridique ne pourra pas bien fonctionner en matière de réforme des institutions politiques dans la Constitution, car deux interprétations fondamentalistes constitutionnelles s'opposent toujours de façon idéologique et presque irréconciliable dans ce domaine. La dernière instance judiciaire, c'est-à-dire la Cour suprême, ne peut pas statuer dans ce cas-là déterminément sur le conflit constitutionnel. Si elle choisit l'une des deux interprétations fondamentalistes sous prétexte de licéité constitutionnelle, l'autre fondamentaliste réagira extrêmement contre la constitution ainsi qu'interprétée et aussi contre la Cour suprême elle-même. La Cour suprême dépourvue de la légitimité démocratique s'inquiète de la perte de son autorité, préfère donc éviter de préciser la licéité constitutionnelle dans un tel conflit. Elle laisse plutôt ce conflit au processus politique capable d'aboutir à un compromis malgré une grande difficulté de conciliation. À ce propos, c'est le constitutionnalisme politique qui doit s'engager dans ce processus politique afin d'aboutir à un meilleur compromis tout en contraignant la majorité politique au pouvoir de façon à respecter la protestation des minorités politiques qui évoquent l'inconstitutionnalité d'un tel acte du majoritaire. Alors, on se demande si est-il efficace le constitutionnalisme politique dans la réforme des institutions politiques? Ainsi, s'agit-il d'une polémique la plus grave entre le pacifisme absolu et le réarmement au Japon? L'article 9 de la constitution japonaise renonce à toute guerre et de surcroît interdit le gouvernement de détenir toutes armées ou toute force militaire. Regrettant profondément son engagement dans la Seconde Guerre mondiale qui avait commencé à titre de l'exercice du droit de légitime défense au moins au point de vue japonaise, mais était estimé comme guerre agressive après sa défaite. Le Japon a renoncé à toute armée et à toute force militaire, quelle qu'elle soit, même si un tel organisme militaire pouvait se justifier du droit de légitime défense. C'était le contexte de l'article 9 quand on a adopté la constitution japonaise en 1946. Mais cependant, le gouvernement japonais a établi l'équipe spéciale de police bien équipée des armes en 1950 sous la pression des États-Unis ayant pour but de compléter l'armée américaine lors de la guerre de la Corée. Cette époque spéciale est devenue plus tard les FAD, les forces de autodéfense. Au début, l'opinion publique a considéré les FAD comme violation de l'article 9. Plusieurs grandes manifestations ont eu lieu. Les FAD se sont donc situés dans une grande opposition entre deux fondamentalistes, le partisan du pacifisme absolu et celui du réarmement. Le premier est anti-révolutionnisme constitutionnel rigoureux qui n'admettent aucune force militaire, quelle soit. Le second fondamentaliste est également le révisionnisme constitutionnel qui insistait sur la nécessité pour le Japon d'avoir l'équivalent de l'armée ordinaire dont les autres pays disposaient et également sur la contribution à l'armée américaine. Cette opposition assez idéologique a duré pendant longtemps, malgré la mentalité japonaise désireuse plutôt d'éviter l'opposition fondamentaliste. Mais au fur et à mesure du changement de l'ambiance internationale, l'opinion publique japonaise a bien changé et accepté les FAD comme organisme conforme à l'article 9. Les activités des FAD dans le domaine du secours au sinistre ont bien favorisé une telle acceptation. En se basant sur le changement de l'opinion publique, l'interprétation influente du constitutionnaliste japonais a aussi changé. Le minoritaire constitutionnaliste a certes beaucoup critiqué ce changement de l'interprétation de l'article 9 comme opportunisme et arbitraire. Mais, à mon avis, la dite nouvelle interprétation ontologique peut s'expliquer comme une évolution de l'interprétation constitutionnelle adéquate à la mentalité populaire japonaise, désireuse du compromis plutôt que de la rupture politique extrême. La dite interprétation est suivante. L'essence de l'article 9 consiste dans l'interdiction de la guerre agressive et de l'exercice de la force militaire de façon à obliger les autres pays à suivre sa politique extérieure, non pas dans la renonciation idéologique à toute résistance militaire aux attaques agressives du pays étranger, sous la conviction du pacifisme absolu. Ainsi, afin d'écarter toute possibilité de transformation de la guerre ou de l'exercice des forces défensives en celle agressive, l'article 9 interdit au FAD d'avoir une capacité militaire assez puissante pour dépasser la limite d'exercer du droit de défense purement et absolument légitime. Autrement dit, l'article 9 interdit au FAD d'attaquer les ennemis préalablement à l'attaque directe des ennemis contre le Japon, sans exception, même sous la menace de l'attaque agressive, limite les activités militaires des FAD géographiquement aux alentours du territoire japonais et à renoncer clairement au droit de légitime défense collective, même si la charte des Nations Unies l'avait admis à tous les pays membres. Les activités des FAD à caractère d'appui militaire à l'armée du pays allié, notamment à l'armée américaine, rendue à l'extérieur des alentours du territoire japonais, sont donc absolument interdits par l'article 9 en raison de l'exercice du droit de légitime défense collective. S'agissant de la contribution à l'opération du maintien de la paix, les FAD ne peuvent s'y engager que dans le domaine purement non militaire. On peut le trouver ainsi dans une certaine interprétation constitutionnelle des FAD, un changement modéré mais adéquat de la constitution conduite par l'anti-révolutionnisme, se basant sur la mentalité japonaise compromissoire mais pacifiste face au radicalisme du révolutionnisme. Sous un tel constitutionnalisme politique, la plupart des Japonais sont fiers qu'aucun membre de FAD n'a jamais tué personne ni être tué dans une opération militaire depuis son établissement. En fait, les gouvernements successifs du RPD eux-mêmes étaient favorables à l'interprétation selon laquelle l'article 9 interdit absolument l'exercice du droit de légitime défense collective afin de justifier la conformité des FAD à la Constitution dans le cadre de l'exercice du droit de légitime défense individuelle. Par ailleurs, l'interprétation du gouvernement japonais relative au droit de légitime défense individuelle était assez ambiguë. Cela a causé l'élargissement petit à petit des activités des FAD dans le domaine du tout qui dérogerait au cadre de l'exercice du droit de légitime défense individuelle. Mais le juge judiciaire japonais ne peut pas statuer sur l'inconstitutionnalité dans ce domaine, comme on a déjà expliqué. C'est donc le constitutionnalisme politique qui doit fonctionner considérablement au Japon afin de freiner l'élargissement du tout des activités des FAD. La justification constitutionnelle des FAD a besoin de limiter sa légitimité juridique. Cette considération juridique a fait naître un domaine intermédiaire normatif, inconnu lors d'établir la constitution japonaise, celui entre l'interdiction absolue des forces militaires, quelles qu'elles soient, et la reconnaissance de toutes les activités des FAD, y compris l'exercice du droit de légitime défense collective. Les FAD ne sont permises donc de substituer, les FAD ne sont permises donc de subsister que dans le domaine intermédiaire normatif. Mais la dite interprétation ontologique de l'article 9 ne permettra de considérer qu'un tel domaine intermédiaire devrait exister toujours dans le significatif normatif de l'article 9 depuis le début de la constitution japonaise, malgré l'ignorance d'un tel domaine à cette époque-là. Au fait, le gouvernement Shinzo Abe a osé changer en 2014 l'interprétation constitutionnelle du gouvernement concernant l'interdiction de l'exercice du droit de légitime défense collective que ses précédents avaient maintenu. Il a fait la diète, voté la nouvelle loi en 2015 qui permettrait les FAD de participer aux opérations militaires de l'armée américaine à l'extérieur des alentours du territoire japonais sans offensive militaire directe au Japon. On dit que le premier ministre Abe a visé l'autorisation de l'exercice partiel du droit de légitime défense collective sous constitution actuelle. Mais cependant, il insiste sur le fait que, s'agissant de l'exercice partiel du droit de légitime défense collective autorisé par la dite nouvelle loi, elle fait partie de celle du droit de légitime défense individuel, dont la conformité à la Constitution est toujours reconnue. Et donc que la dite nouvelle loi est également conforme à la Constitution. Par surcroît, le premier ministre Abe et ses partisans essayent maintenant avec zèle la révision constitutionnelle explicite, c'est-à-dire la révision constitutionnelle formelle, visant l'addition à l'article 9 un nouvel alinéa qui consacre le statut légal des FAD actuels en tant qu'organisme de l'exercice du droit de légitime défense. On peut considérer donc que cette révision constitutionnelle explicite a pour but de donner la constitutionnalité non seulement aux FAD, mais également à l'exercice partiel du droit de légitime défense collective dont les FAD du statu quo disposent. Selon le premier ministre Abe, il n'y aura aucun changement concernant la constitutionnalité des FAD ainsi que l'exercice du droit de légitime défense. Mais cependant, une telle inscription explicite des FAD dans la Constitution est non seulement inutile mais également dangereuse. Car en premier lieu, le premier ministre Abe a dit que les FAD seraient toujours conformes à la Constitution, même si son projet de la révision constitutionnelle à cette fois-ci est rejeté malgré lui par le référendum. C'est inutile. Et deuxièmement, l'inscription explicite des FAD dans la Constitution conduira l'opinion publique japonaise à l'acceptation de façon inconsciente et graduelle de l'exercice illimité du droit de légitime défense collective, c'est-à-dire l'acceptance au futur de l'engagement entier des FAD aux opérations militaires de l'armée américaine partout dans le monde. Le premier ministre Abe et ses partisans insistent sur le fait qu'une telle inscription explicite est nécessaire afin de rétablir le constitutionnalisme juridique japonais, car elle permet le pouvoir judiciaire de contrôler mieux la constitutionnalité des FAD. Mais ce n'est pas le cas en effet, car premièrement, on ne peut pas espéré de la Cour suprême japonaise le contrôle actif de constitutionnalité au FAD. La Cour suprême japonaise préfère toujours respecter la position politique du gouvernement et du ministre majoritaire politique. Représentant le peuple souverain. De même, s'agissant de la constitutionnalité de la loi, la Cour suprême évitera d'en statuer tout en utilisant la technique de contentieux constitutionnel telle que question politique. C'est donc le constitutionnalisme politique qui doit s'engager dans le contrôle de constitutionnalité des FAD afin de les contraindre de façon à limiter l'exercice du droit de légitime défense dans le cadre de légitime défense purement individuelle, tout en évoquant le risque de la violation de l'article 9. Mais une fois ajouter une clause consacrant le statut des FAD à l'article 9, le bien fondé du constitutionnalisme politique pour la contrainte des FAD se dégradera énormément puisque le gouvernement insistera sur le fait que les activités des FAD en tant qu'organisme permis par l'article 9 seront naturellement et toujours conformes à l'article 9. Et ce type de justification des FAD affaiblira la critique de l'opinion publique qui avait activé le constitutionnalisme politique au Japon. Je terminerai tout de suite. Voilà la vocation importante du constitutionnalisme politique au Japon. Il complète considérablement le constitutionnalisme juridique dépourvu de l'activisme. Quelques partisans du révisionnisme insistent certes sur la nécessité de révision constitutionnelle afin d'établir une véritable cour constitutionnelle comme Conseil d'État ou le Verfassungsgericht en Allemagne dans le but d'activer le contrôle de constitutionnalité. Mais après la dite réforme même, on ne pourra pas espérer l'activisme car la mentalité japonaise inclinée à éviter l'opposition extrêmement politisée, notamment l'opposition à l'égard de majorité politique au pouvoir, sont enracinées également même dans les cours des juges en tant qu'élite japonaise. Peu de l'alternance au pouvoir au Japon a bien causé ce passivisme judiciaire. Pour accepter quand même la révision constitutionnelle provoquée par le changement social et politique face au temps, il faudra remplir trois conditions au moins. En premier lieu, c'est la libération considérable des élites japonais de l'obéissance excessive à la structure hégémonique des États-Unis. En fait, même les élites japonais, notamment inclinées à y obéir, on profite souvent de la contrainte normative de l'article 9 actuel pour prétexte afin de résister à l'exigence excessive de la collaboration militaire des États-Unis. En effet, la révision de l'article 9 sera plutôt dangereuse à ce propos. En deuxième lieu, on a besoin de l'alternance fréquente au pouvoir dans la scène politique nationale, mais la majorité des électeurs japonais, notamment les électeurs à la jeune génération, sont inclinés beaucoup à éviter de changer le statu quo. En dernier lieu, il faudra un changement assez considérable de la mentalité japonaise pour devenir capable de s'opposer en se disputant carrément parmi les citoyens japonais dans les enjeux politiques. Mais ce changement risque de provoquer la diminution, voire la disparition large des avantages de mentalité japonaise actuelle. Par exemple, le respect spontané de l'ordre social harmonieux. En fait, cet avantage a favorisé dans une certaine mesure, l'évolution de la liberté normative de collectivité territoriale au Japon que je traiterai à notre jour. Toutes les conditions ci-dessus sont très difficiles à remplir pour le moment. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord sur la révolution, sur la révision constitutionnelle dès maintenant au Japon. Merci à votre attention.
Merci, merci beaucoup pour cette très riche conférence que vous avez bien voulu présenter en français, qui contient des éléments assez intéressants et il me semble assez novateur par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'à présent, puisque vous mettez quand même le doigt sur la grande ombre qui pèse sur le Japon, c'est-à-dire l'occupation américaine et ses suites. Et c'est effectivement un cas qui me rappelle un peu un pays que je connais mieux, c'est-à-dire le cas allemand, où on a fait quand même la Grundgesetz de 49 sous l'égide des États-Unis qui avait écrit la première version de cette constitution. Donc là, des éléments extrêmement intéressants, je trouve, très riches, et vous avez en plus voulu thématiser cela avec la distinction entre constitutionnalisme juridique et constitutionnalisme politique, qui me paraît en tout cas, pour moi, une des clés, une des méthodes d'interprétation et de discussion fondamentale en droit constitutionnel. Et vous avez en plus ajouté des éléments politiques, de sociologie aussi sur le peuple japonais, parce qu'une constitution, elle est faite pour un peuple, et on ne la change pas comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Alors, je parle sous le contrôle des deux organisateurs, M. Levoyer et M. Aubin. Est-ce qu'on fait une pause maintenant pour la discussion ? On échange 5-10 minutes, après on fait la pause, parce que je sais que le professeur Cécile Barg, elle doit partir à d'autres obligations. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, on fait une discussion maintenant ? Oui. Vous avez été des parfaits organisateurs, vraiment. Voilà. Bon, on discute donc 5-10 minutes. Donc c'est moi qui préside. Alors, donc voilà, la parole est à ceux qui la demandent. Donc ne soyez pas vexés si je ne vous connais pas. Madame, vous avez droit à un micro, je crois aussi. Si vous pouviez vous présenter. Juste. Alors pendant qu'on cherche le micro, je profite de l'occasion pour dire à ceux qui vont répondre qu'il faut répondre de façon brève. Sinon, il n'y aura pas d'autres questions que cette question. Merci.
Merci, monsieur. Céline Lajoux, je suis professeure de droit public à l'Université de Poitiers. Merci à tous les intervenants et effectivement à cette manifestation très riche. Deux questions qui me sont venues à vous entendre parler plus précisément, madame Guérin-Barg et monsieur Hayamoto. Vous avez évoqué pour vous, madame, la standardisation de la Constitution. Et monsieur Hayamoto, vous avez parlé, vous, de droit constitutionnel comparé, globalisé, et après vous avez ajouté fortement globalisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce thème qui, moi, me préoccupe pour d'autres champs de disciplinaires ? Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser votre propos, s'il vous plaît ?
Je vais peut-être répondre dans un premier
priorité
temps.
Priorité aux femmes.
L'idée était simplement d'essayer de montrer que dans les interprétations doctrinales qu'il peut y avoir de ces changements informels, donc de ces évolutions qui ne sont pas nécessairement conçues comme telles à travers une révision formelle de la Constitution, certaines interprétations tendaient à trouver une sorte de sens à ces diverses révisions et notamment à montrer qu'au-delà de la révision un peu technique, il y aurait un changement informel d'ordre plus systémique et que ces changements informels, on pourrait les regrouper vers un mouvement plus général qui va vers effectivement l'instauration d'un État libéral et une forme de standardisation des constitutions. J'avais utilisé ce terme parce que, de mémoire, je crois que c'était celui qu'utilisait Jacky Hummel dans l'article que j'avais lu dans Ius Politicum. Et c'était l'idée qu'effectivement, il y aurait des standards, c'est-à-dire plus exactement des points communs vers lesquels les différentes constitutions dans les États libéraux tendraient à se mouvoir. On peut avoir des doutes néanmoins sur la véritable convergence de toutes ces constitutions. D'abord parce que je crois que c'est le propre du droit comparé d'être extrêmement difficile, ne serait-ce que parce qu'il faut remettre les choses en contexte, et ce qui vous apparaît similaire d'un ordre juridique à un autre peut changer assez profondément de sens, de sorte que je ne suis pas absolument convaincue qu'il y ait véritablement une standardisation, même si il y a certainement des mouvements de fond qui sont assez semblables d'un pays à un autre. Mais peut-être que Hajime veut ajouter quelque chose.
De répondre à sa question sur le droit, un droit comparé globalisé. Donc, un exemple, c'est que, comme je mentionnais dans ma présentation, libre de Yanis Rosenay, Unconstitutional Constitutional Amendment, je sais que l'Institut Michel Villet, il y a quelques années, vous avez organisé autour de lui un colloque très intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est une recherche très diverse, historiquement et géographiquement. Et donc, il a fait des recherches dans quel pays, quelle est la limitation matérielle de la limitation de révision constitutionnelle. Donc, je pense que les chercheurs constitutionnels peuvent partager ce genre de connaissances et on partage. Et ce qui s'est très impressionné par son ouvrage, c'est que comment un cours constitutionnel contrôle le degré de contrôle en fonction de la procédure de la révision constitutionnelle. Cet ouvrage est très, très nouvelle pour moi, en tout cas. On peut parler avec, je pense qu'on peut parler avec les collègues français, collègues allemands, collègues anglais, mais aussi il y a beaucoup de pays, d'autres pays, par exemple le pays Amérique latine, Inde. Donc, c'est mes nouvelles perspectives. Je ne sais pas si...
Très clair. Alors, encore une question, madame?
Merci beaucoup pour des interventions très riches et intéressantes. J'ai une petite question au professeur Otsa au propos de la révision constitutionnelle. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut encore attendre et que c'est un peu le temps est encore prématuré avant de procéder à la révision constitutionnelle au Japon. Je suis moitié d'accord et moitié contre avec votre opinion, parce que quand on parle de la mentalité, c'est une question délicate, parce qu'on n'a pas, c'est assez difficile d'apporter des preuves concrètes. Bon, ceci étant dit, à votre avis, pour que les Japonais soient assez mûrs pour commencer le débat autour des questions constitutionnelles, combien de temps il faudra attendre? Et si, d'après vous, il y a des mesures qu'on pourrait prendre éventuellement pour accélérer ce processus de la discussion?
Merci beaucoup pour cette question extrêmement spirituelle et profonde.
Oui, c'est un problème, bien sûr, très délicat, mais entre maturité du débat, d'abord, il faut attendre le décès de la vieille génération qui ont vécu sur la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il reste encore beaucoup de générations, y compris nos maîtres constitutionnalistes. Quand nous étions étudiants, nos maîtres insistaient toujours sur la valeur précieuse de la pacifisme absolu du Japon. Deuxièmement, peut-être il faudra attendre le changement du mentalité japonaise. À mon avis, la politique que le gouvernement actuel japonais a adopté sur une politique d'invitation des immigrés étrangers. L'augmentation des immigrés étrangers changera peut-être la mentalité japonaise, parce que les étrangers immigrés ne connaissent pas du tout le sentiment de notre ordre social. Donc, nous devons changer, bien sûr, mais à mon avis, ce n'est pas le cas maintenant.